toutes et à tous. Voilà, nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Merci. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu, car nous sommes là pour ça. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si nous voulons conduire notre vie dans la vérité, nous devons lire la parole. Comme plusieurs fois il a été dit par notre frère, ce matin on a eu une étude biblique dans laquelle on a parlé un peu de l'Église. Mais on a parlé surtout, on a vu que la Bible, il partage cette humanité en trois parties. Il y a les Juifs, il y a les Gentils et il y a l'Église. Et donc ce matin, je vais continuer à vous parler sur ça et vous présenter, voilà le titre de mon message, c'est « Avant et maintenant ». C'est-à-dire ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur Jésus, ce que nous sommes maintenant, ce que le Seigneur il nous appelle à vivre maintenant que nous avons la gloire de Dieu dans notre propre cœur. Et pour cela, je vous invite à ouvrir l'épître aux Éphésiens, que c'est l'épître dans lequel Paul, il nous montre, il nous révèle ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais ce que nous étions auparavant, la Bible l'éclaire. Dans ces deux catégories de personnes, les Juifs et les Grecs et les Gentils. Voilà ce qu'il nous dit au premier verset. Il dit... Paul, il parle à l'Église. Automatiquement, dans l'Église, il y a ceux qui ont Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas. Voilà ce qu'il dit au premier verset. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, surtout dans les fils de la rébellion. Voilà, ici, Paul, il ouvre et nous dit clairement, vous étiez morts. Vous qui n'avez pas Jésus-Christ, vous étiez morts. À cause de quoi? Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si nous sommes dans le péché, nous sommes condamnés. Mais Paul, il continue. Parce qu'il parle à l'Église encore, à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Maintenant, il parle à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Quel est ce nombre? De ceux qui n'avaient pas Jésus-Christ. Mais nous, nous avons Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous étions là. Nous étions morts par nos offenses. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de ce monde. Et il continue au verset 4, voilà, nous étions dans cet état-là, mais Dieu est intervenu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il n'est pas comme quelques-uns ils disent, le Dieu est miséricordieux. Comprenez de qui je parle. On l'appelle constamment comme ça, le Dieu miséricordieux. Ici, dans la Bible, il dit... C'est le Dieu qui est riche en miséricorde. C'est-à-dire que c'est une miséricorde qui ne s'épuise pas. C'est une miséricorde immuable. Et il nous est dit qu'il est riche à cause du grand amour qui nous a aimés. Dieu, il nous aime depuis le commencement jusqu'à la fin. Il nous a aimés. Il nous est dit dans un endroit que Dieu, il nous a aimés les premiers. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de fantastique. Il aurait pu, à cause de notre péché, il aurait pu nous détruire, nous faire mourir. Mais non, comme il est riche en miséricorde, il est intervenu. Et il nous l'a dit, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Jésus-Christ. C'est grâce à cet amour inouï de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est à cause de cet amour que Jésus, il nous a donné la vie. C'est cette vie-là que nous devons. Et si vous prenez le verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés en circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, appelés en circoncis par ceux qu'on appelle circoncis les juifs, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Et qui sont dans la chair, et qui sont en la chair par la main de l'homme. Circoncis par la main de l'homme. Le peuple juif, ça c'est l'alliance que Dieu il avait fait avec Abraham. Il l'avait appelé et il lui a dit, quitte ton pays, va dans ce pays, et comme signe de cette alliance, tu vas circoncire tous les enfants qui viendront de toi. Ça, c'est le signe de l'alliance. Voilà pourquoi il dit, circoncis par la chair, dans la chair, par la main d'homme. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils n'ont pas été circoncis par la main de l'homme, mais par la main de Dieu. La circoncision du cœur. C'est ça ce que Dieu a fait. Avant, il n'y avait que le peuple juif qui était en contact avec Dieu. Mais maintenant, par la grâce de Dieu et par l'amour de Jésus-Christ qui a circoncis notre cœur, nous avons ce grand privilège, comme j'ai dit ce matin, d'appartenir à l'Église, à la famille de Dieu. Et il continue ce verset. Il dit, souvenez-vous, n'oublions jamais ce que nous étions. Souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Souvenons-nous de ce que nous étions. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il est intervenu. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Eh oui, il n'y avait que le peuple juif qui était le contact avec Dieu, sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu. Étranger aux alliances, aux promesses. Nous n'avions aucune promesse, aucune alliance avec Dieu. Et ensuite, il dit, verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ. » Voilà, avant, nous étions des pécheurs. Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons toutes ces bénédictions que Dieu il nous a données. Et vous savez, hein, c'est quelque chose de très important. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, éloignés pourquoi? Parce que Dieu, il traitait qu'avec le peuple juif. Mais avec Jésus-Christ, ceux qui étaient éloignés de Dieu, hein, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il a fait quoi, le sang de Christ? Car il est notre paix. Lui qui, des deux, les Juifs et les gentils et les païens, il a fait quoi? Par Jésus-Christ. Il nous a dit ici, des deux, il n'a fait qu'un. C'est l'Église. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Nous sommes un, grâce à Jésus-Christ, malgré tous nos manquements. Hein? Et il nous le dit, ayant renversé les murs de séparation. Parce qu'il y avait une séparation entre les juifs et les païens. Mais en Jésus-Christ, il nous a réunis. Alors, comment est-ce que nous avons pu quitter cet état dans lequel nous nous trouvions? Mais justement, c'est grâce à Jésus-Christ. Maintenant, il nous est dit, dans Jean 1,12, il le dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient, en son nom. Maintenant, tous ceux qui étaient des pécheurs, étrangers, sans promesse, sans alliance, maintenant, en Jésus-Christ, nous avons tout ça. Maintenant, nous sommes ça. Et c'est par là que nous sommes passés tous. Hein. Moi, le premier. Hein. Et maintenant que nous sommes dans cette famille de Dieu, Qu'est-ce que c'est qui nous arrive? C'est que nous avons l'assurance de notre salut. Il nous est dit clairement, Jean 6, 47, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas il aura, mais il a. Maintenant, nous avons l'assurance de notre salut. Et comme il est dit un peu plus loin, il nous garde de toutes choses. Il nous est dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Jamais. Vous savez ce que ça veut dire jamais? C'est l'assurance que Dieu nous donne, que nous irons au ciel. Il peut arriver n'importe quoi. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous allons être auprès de Dieu. Nous allons aller au ciel. Ça, c'est l'assurance que nous avons maintenant. Autrefois, nous étions sous la condamnation. Maintenant, nous avons le salut en Jésus-Christ et nous avons cette assurance que personne ne pourra nous arracher de la main de Jésus-Christ. Si nous sommes vraiment passés par cette nouvelle naissance, si vraiment nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, si nous sommes nés de nouveau, jamais personne ne pourra nous arracher. Nous pouvons tomber dans les péchés, nous pouvons nous éloigner, mais à un certain moment, Dieu, il va nous faire revenir. Car nous avons en nous cette nature pécheresse. Et nous tombons dans les péchés. Et Jean et Dieu, ils le savaient. Car Jean, il nous le dit dans ses épîtres. Si nous confessons nos péchés, et il parle, si nous confessons, il parle à des chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens, ils peuvent pécher. Mais à l'intérieur de nous, de cet esprit que nous avons, il nous dit, cet esprit, retourne vers ton Père. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et encore ce que je dis toujours, aujourd'hui nous avons beaucoup, appelons-la de la chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, il devait acheter ou une brebis ou une colombe, ou juste, il devait acheter un animal et en plus faire des offrandes. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde aujourd'hui, il nous dit de rien faire. N'achetez pas des animaux, car le sang des animaux, il ne fait rien. Le sang de Jésus-Christ est suffisant. Nous devons juste lui demander pardon de nos péchés. Et c'est ainsi que se manifeste la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que notre salut, il est sûr et certain. Et personne, qui pourra nous arracher de la main du Seigneur? Paul nous le dit, ni la mort, ni la vie, ni les puissances. Personne. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est en lui que nous devons nous confier. Maintenant, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous avons cette assurance. Quel est le cheminement que nous devons faire? Automatiquement, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a cette assurance, le Seigneur, il nous le dit, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle est la suite? C'est se faire baptiser. Se faire baptiser. Il continue, et il nous est dit d'actes, il nous est dit, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, c'est-à-dire qui acceptèrent la parole de Dieu, ils ont fait quoi? Ils furent baptisés. Automatiquement. Pourquoi nous faire baptiser? Parce que le Seigneur, il nous l'a dit. Il nous l'a commandé. Nous disons, oui, oui, tu es mon sauveur. Oui, j'étais pécheur et tu m'as sauvé. Merci, merci mon sauveur. Mais Jésus, il n'est pas seulement sauveur, il est Seigneur. Et lorsque Dieu il commande quelque chose, il faut obéir. Dieu ne demande pas que nous lui amenions, je ne sais pas moi, ou de l'argent ou des choses. Non, ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance. Il nous est dit dans l'Ancien Testament, il préfère l'obéissance au sacrifice. Il leur a dit à Israël, je n'aurai rien à faire de vos sacrifices, de vos offrandes. Ce que je vous demande, c'est d'être obéissant. Et c'est Paul, il nous dit la même chose. Ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que vous soyez fidèles, c'est que vous soyez obéissants. Et ça, c'est les commandements de Dieu, c'est faire baptiser. Automatiquement, une fois que ces choses y sont, on rentre dans cette famille de Dieu. Et une fois qu'on est enfant de Dieu, qu'est-ce que c'est que nous devons faire? Je vous l'ai dit toujours, lorsqu'on achète une machine à laver, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout de suite si elle est garantie, n'est-ce pas? Et comment ça fonctionne? Alors maintenant que nous sommes des chrétiens, qu'est-ce que c'est que nous devons faire? Étudier la parole de Dieu. C'est comme ça seulement que nous arriverons à passer outre toutes les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Pierre, il nous dit même, désirez avec ardeur, pas seulement désirer, mais avec ardeur, c'est quelque chose pour lequel nous sommes portés à le faire. Nous n'avons même pas à chercher les temps, non, automatiquement nous devons le faire. Avec ardeur, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Paul, il avait dit à Corinthe, il a dit, je ne peux pas vous donner de la viande, c'est-à-dire les enseignements. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants, parce que vous n'étudiez pas la parole, vous ne connaissez pas les plans de Dieu, vous ne connaissez pas les conseils de Dieu. Les gens, ils se bornent et se disent, bon, j'accepte le Seigneur Jésus, ça suffit. C'est ce qui m'intéresse. Mais comme je dis toujours, nous, en tant que chrétiens, nous sommes là pour apporter la parole à tous ceux qui ne la connaissent pas. Et si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment voulez-vous apporter cela? Nous faisons un cadeau d'une machine à laver. Si nous ne savons pas lui dire comment ça fonctionne. C'est exactement la même chose. Nous devons étudier la parole. Et pas seulement. Dans 2 Timothée, il nous a dit, efforce-toi de te rendre approuvé de Dieu, comme un ouvrier sans reproche. Sans reproche. Dispensant comme il faut la parole. Comme il faut. Et comment dispenser la parole comme il faut? C'est par la Bible. Parce que si nous n'utilisons pas la Bible, nous disons tout et n'importe quoi. Comme ils ont fait en certains moments, dans certains endroits. Et Paul, il nous l'a dit. Il y a des gens qui vous disent, ne vous mariez pas. Ne mangez pas telle viande. Faites ceci. Faites cela. Ça, c'est la loi qui disait cela. Dieu, il nous dit, vous n'avez rien à faire. Pourquoi? Parce que tout a été fait. Mais instruisez-vous, car Dieu nous a donné la Bible pour que nous puissions cheminer, pour que nous puissions marcher avec lui. Si on ne lit pas la Bible, nous ne pouvons pas. Nous n'arrivons pas. Voilà pourquoi il nous dit d'étudier la parole de Dieu. Nous l'étudions, mais il y a aussi autre chose que nous devons faire si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes dans l'Église. Il nous est dit que nous devons prier chaque jour. Chaque jour. Le Seigneur, il a fait cela. Hein? Il avait sa journée de travail. Et avant de se coucher, il priait. Avant de prendre une décision, il priait. Avant d'agir, il priait. Pourquoi? Parce que la prière, c'est, il nous a dit que c'est la puissance. Dieu, il nous a donné cette puissance et nous devons l'utiliser. Le vendredi, on en parle souvent. C'est la puissance qui fait bouger la main de Dieu. Demandez, et vous recevrez. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Voilà pourquoi c'est quelque chose. Et il nous a dit, ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu. En toute occasion, comment ? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et il nous a dit, et quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai. En quel nom ? Le nom de Jésus. Jésus, c'est un peu ce qu'il disait à Ali Baba. Ouvre-toi, Sésame. Il s'ouvrait cette caverne où il y avait des trésors. Jésus, c'est le nom qui fait bouger la main de Dieu. Mais pour se tourner vers Jésus, il faut le connaître. Il faut le connaître. Mais nous qui avons la vie éternelle, nous qui avons cette assurance, nous qui sommes nés de nouveau, Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes. Mais il faut demander en son nom. Et Jésus, il a dit au peuple juif, il a dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais rien demandé à mon nom. Et c'est vrai, parce qu'il s'est tourné vers l'Éternel, vers Dieu. Mais il a dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais demandé à mon nom. Mais demandez à mon nom, et vous recevrez. Et vous recevrez. Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes. Jésus, c'est le chèque en blanc pour chacun de nous. Si on met Jésus dans nos prières, nous serons exaucés. Priez pour qui ? Mais premièrement, priez pour nos frères et sœurs. Priez pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Priez pour nos besoins. Mais aussi priez, et avant tout, comme Jésus il enseignait, que ton règne vienne ici-bas sur la terre. Nous devons attendre la venue de Jésus-Christ, car alors Jésus-Christ, il manifestera toute sa gloire. Car un moment avant, il est venu dans l'humilité, il est venu sans couronne, et il a été maltraité, il a été rejeté, mais lorsqu'il va revenir, il reviendra dans son droit. Il viendra pour juger, pas pour sauver, mais pour juger. Voilà pourquoi lorsqu'il va revenir, il va y avoir les jugements des nations, des vivants. Il va les juger. Il va les juger parce qu'ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est quelque chose, et Thessaloniciens, Paul, il nous le dit, priez sans cesse. Vous me direz, comment peut-on prier sans cesse? Je dois travailler, je dois faire ça. Mais prier sans cesse, même au travail, on peut être en prière si nous faisons le travail comme il faut. Si nous le faisons pour la gloire de Dieu. Des fois, c'est vrai que lorsque quelqu'un nous dit au travail, fais ceci, fais cela, on dit, voilà. On le fait pour la gloire de Dieu. C'est une prière, ça. Prier sans cesse. Pourquoi ? Encore une fois, nous sommes ici-bas, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes ici-bas en apprentissage. Il nous dit de prier sans cesse. Dans le ciel, nous ne ferons que ça. Prier, louer, glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Et aussi, si nous avons toutes ces choses, nous devons nous consacrer entièrement à Dieu. Entièrement, hein, au service de Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Qui devons-nous servir? Mais ceux qui nous entourent. Vous savez, ils avaient sur le, je ne m'en souviens plus le nom, ils avaient les épaulettes, c'était marqué Armée du salut, voilà. Ils avaient sous les épaulettes SS. Alors, ça donne des souvenirs, n'est-ce pas? Mais ces deux SS qu'ils avaient ici, c'était sauvés pour servir. Ils voulaient mettre en pratique ce pourquoi ils avaient donné leur vie au Seigneur, pour servir. Qu'est-ce que c'est que nous devons mettre en marche dans notre propre vie pour servir? Premièrement, mon corps. Il nous est dit dans Romains, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. » Notre corps entier, servi, mettre au service de Dieu. Notre corps entier. Et aussi, pas seulement mon corps, mais mon temps. Il nous a dit, prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Non comme les gens dépourvus de sagesse, mais comme des personnes sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Notre temps, nous devons le mettre à la disposition de Dieu. Lorsqu'il y a des études bibliques, des fois on dit, ah, j'ai pas le temps. Lorsqu'il y a des réunions de prière, j'ai pas le temps. Nous devons mettre tout notre temps au service de Dieu. Car c'est seulement comme ça que Dieu va nous bénir. Mon corps entièrement, mon temps entièrement, mes talents. Car le Seigneur, il a donné à chacun de nous des talents. Personne ne peut dire, ah, moi, je ne sais rien faire. Non, chacun de nous, il a un talent. Et nous devons le mettre au service du Seigneur. C'est ce qu'il nous dit, hein. Ne négligez point les dons qui est en toi. Nous devons le mettre au service du Seigneur. Nous pouvons savoir faire ce que nous pouvons le faire. Nous devons le faire au nom du Seigneur. Le dédier au Seigneur. Un jour, le Seigneur va nous demander compte. Il va me dire, Aldo, qu'est-ce que tu as fait de talent que je t'ai donné? Ah oui, tu sais, Seigneur, hein, tu m'as donné ce talent, je l'ai caché. Tiens, tu me l'as donné, je te les rends. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Nous devons le faire fructifier pour que le Seigneur il puisse en retirer de la gloire et de l'honneur. Pas seulement le talent, mais aussi notre argent. Ça, c'est difficile de parler d'argent, n'est-ce pas? Notre argent. Il nous est dit, au reste, je vous avertis que celui qui sème peu, moissonnera peu, et que celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Pourquoi devons-nous mettre notre argent à la disposition de Dieu? Car c'est Dieu qui nous l'a donné. Ne dites pas, je l'ai travaillé. Qui vous donne la possibilité de travailler? C'est Dieu. Et Dieu nous demande de lui rendre. Oh, il ne nous dit pas de lui donner tout. Mais il nous dit de lui donner une partie. Parce que cet évangile, cette bonne nouvelle, nous devons le répandre. Et vous savez aujourd'hui que sans argent, on ne peut rien faire. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici-bas, il avait des femmes qui pourvoyaient à son besoin. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. Hein? C'est le Fils de Dieu. Et il nous a dit dans 2 Corinthiens, que chacun de vous donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret. Parce que cet argent que nous avons, c'est le Seigneur. C'est la première chose que nous devons penser le premier jour de la semaine. Mettre de l'argent à côté pour le Seigneur. C'est l'ordre qu'il nous a donné, sans regret. Il a dit, oh là là, j'ai donné 100 euros au Seigneur à l'Église. Sans regret, ni contrainte. Dieu ne nous oblige pas. On veut être béni dans cette vie, rendons et obéissons à Dieu. Dans Malachie 3, vous connaissez tous ce verset, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit aux Juifs, vous me volez. Il a dit, mais en quoi nous te volons? Et il dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous ne me donnez pas ce que je vous ai demandé. Mes serviteurs, ma maison, elle est dans un mauvais état. Mes serviteurs, ils n'ont pas à manger. Et cet argent que vous avez, c'est moi qui vous l'ai donné. Et Jésus, il a dit dans la parabole, c'est de l'argent non mérité. Parce que qu'est-ce que c'est que nous méritons? Mais rien. Si Dieu nous donne de l'argent, si Dieu nous donne la possibilité de le mettre à son service, nous devons le faire. Parce que c'est lui qui nous le donne. Voilà pourquoi c'est très important. Et si je suis sauvé, si j'ai l'assurance de mon salut, si je suis passé par les eaux du baptême, si j'ai pris, si je partage tout ce que j'ai, je dois aussi témoigner autour de moi, dire que je suis chrétien. Je vous le dis toujours, est-ce que vos voisins savent que vous êtes des chrétiens? Il faut témoigner. Et il leur dit d'aller dans le monde entier. Mais le monde, premièrement, pour nous, c'est notre maison. Ensuite, on sort de la maison, c'est les quartiers, ensuite c'est la ville, et ensuite aller ailleurs. Mais notre maison, c'est le lieu principal. Nous savons que dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore. C'est là le lieu pour évangéliser. Une fois que tout est fait, sortons de nos maisons et propageons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein? Et comment est-ce qu'on fait? Je suis chrétien, d'accord, mais je suis timide et tout ça. Voilà, là, c'est encore quelque chose que nous, chrétiens, nous oublions. Il nous est dit d'Acte 1, c'est un verset que tout le monde connaît, hein? « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui descendra sur vous. » Si nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit, il est en nous et c'est une puissance, c'est le moteur qui nous fait témoigner. C'est lui qui nous fait sortir. C'est lui qui nous donne ce que nous devons dire. C'est la puissance de Dieu. Et cet esprit, il est en nous. Cet esprit, il est en nous qui descendra sur vous et vous me servirez de témoins. Nous sommes des témoins. Qu'est-ce que c'est que nous devons dire à tous ceux qui nous entourent? Leur dire ce que le Seigneur, il a fait pour moi. Voilà. J'étais auparavant, j'étais pécheur, j'ai mérité la condamnation, je n'avais droit à rien, mais maintenant, par Christ, j'ai toutes ces choses-là. Et en plus, le Seigneur, pour que je puisse bien accomplir ces choses, il m'a donné une puissance. Et cette puissance, elle est en nous. Si nous, sans cette puissance, nous ne pouvons rien faire. Et si nous ne faisons rien, cette puissance ne nous obligera pas à témoigner. Car le Seigneur, il a donné avec amour. Il a donné sans rien demander en retour. Et nous devons faire comme lui. Voilà pourquoi nous devons avoir cette certitude que maintenant, nous sommes des gens nouveaux. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Et nous avons cette promesse de Jésus-Christ, de Dieu. Et nous devons la serrer plus profond de nous-mêmes. Il dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, en Corinthiens 15, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, abondants toujours, pas nous arrêter. Si on a besoin de repos, Dieu, à un certain moment, il va nous mettre au repos. Parce que Dieu, il veut notre bien. Dieu, il ne veut pas que nous allions à témoigner, n'ayant une bonne santé, ou je ne sais pas. Il va nous mettre au repos. Il l'a fait avec moi, je peux vous le dire. À un certain moment, le Seigneur m'a mis à côté. Parce que j'avais besoin de repos. Ou même parce que je m'étais éloigné de lui. Voilà, je te retire ma bénédiction. Tu veux vivre comme le monde? Vas-y. Je te laisse à tes propres pensées. C'est ce qu'il a fait avec moi. Mais à un moment donné, le Seigneur, il m'a fait revenir. Il m'a fait revivre. Vous savez que j'étais transplanté du foie. Pour me faire revenir, il m'a donné l'hépatite B. Voilà. Ah, tu veux faire les choses selon ta volonté? Tiens. Ah oui. Des fois, le Seigneur est notre Père. Hein? Il fait quoi un père envers ses enfants s'il ne se comporte pas bien? Il le châtie. Et je reconnais que le Seigneur, il m'a châtié. Résultat, je suis revenu. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Parce que la vraie vie est en Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Les plus petites choses que nous faisons devant le Seigneur, c'est une grande chose. Les plus petites choses, faire le ménage en l'église, si est fait pour la gloire de Dieu, c'est une grande chose. Et pourtant, pour les autres, c'est rien. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, s'être sauvé. Avant, j'étais perdu sous la condamnation. Maintenant, je suis en Christ, une nouvelle création, une nouvelle créature, ayant droit à la cité céleste, ayant droit à la famille de Dieu. Et comme j'ai tous ces droits-là, toutes ces choses, alors je me comporte en chrétien. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Car si nous le faisons, nous pouvons en retirer que des bénédictions. Le Seigneur, il nous le dit. Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. C'est à toi de choisir. C'est à nous de choisir. Vous savez, pour aller à l'enfer, il ne faut rien faire. Si, il faut que continuer comme vous faites maintenant, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus. Continuez comme ça et vous irez en enfer. Pour changer de destination, il faut se tourner vers Jésus. Il faut se tourner vers Jésus. Et Jésus, encore une fois, c'est la solution. Alors, si vous avez des problèmes, tournez-vous vers Jésus. Car c'est le seul qui peut nous apporter la paix, la joie, le repos, la vie éternelle.